Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine. Conflit que vous pouvez également retrouver en kiosque avec notre numéro dans le dossier consacré à la guerre en Israël. Agrémenté de nombreuses cartes. Dans ce numéro, vous pouvez retrouver, bien évidemment, comme dans chaque numéro, nos chroniqueurs habituels, ainsi que la rubrique Enjeux, avec des articles extrêmement variés sur l'Asie, sur l'Europe, sur le continent américain. Vous pouvez retrouver Conflit également sur notre site internet, revueconflit.com. Chaque jour, des articles inédits, des podcasts, des vidéos. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner ou acquérir les anciens numéros sur notre boutique en ligne. Alors cette semaine, nous reprenons le fil des échanges, partenariat avec l'école de guerre Terre, partenariat que nous avons commencé en fin d'année 2023, où nous avons déjà consacré deux émissions. Une émission qui était une présentation de l'école de guerre Terre et on dirait du métier d'officier soldat. Deuxième émission, on avait évoqué les wargames, ces jeux de rôle militaire qui permettent la formation, et on va aborder au cours de cette émission un autre aspect de l'école de guerre Terre qui est important, à savoir la présence d'officiers alliés au sein de l'école de guerre Terre. Officiers alliés, qui on va voir pourquoi est-ce qu'ils viennent se former dans cette école, qu'est-ce qu'ils apportent, et puis en quoi c'est intéressant et important aussi pour les officiers français que d'avoir la présence de ces officiers alliés. J'ai deux invités cette semaine. Le major Johanna, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes officier de l'armée anglaise. Alors je précise que major, si on le traduit en français, c'est l'équivalent de commandant pour les grades. Et justement, officier français, le commandant Céline, officier stagiaire à l'école de guerre Terre. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venus toutes les deux à notre micro. Alors depuis 2016 que nous faisons ces podcasts de conflit, c'est la première fois que je reçois un officier non français, que je m'en réjouis. Ça va nous permettre aussi d'aborder l'armée anglaise et de voir comment elle est constituée. Dans la première émission qu'on avait consacrée à l'école de guerre Terre, on avait évoqué la formation des officiers français, les écoles par lesquelles ils passaient et comment leur formation était organisée. Qu'en est-il côté anglais? Par exemple, si on prend votre parcours, comment on devient officier? Quelles écoles on intègre? Comment s'opère la formation pour atteindre le grade et les qualités qui sont les vôtres?
Moi, je suis diplômée du Royal Military Academy Sandhurst. Et en fait, tous les officiers de l'armée de terre britannique passent par le Royal Military Academy Sandhurst. La différence par rapport à Saint-Cyr, c'est que ça dure quand même. Et c'est une formation militaire. Il n'y a pas d'études supérieures. Normalement, les officiers font leurs études avant d'aller à l'école militaire.
Et on a quel âge à peu près quand on rentre dans cette école, c'est 22-23 ans?
Oui, normalement, oui. Je pense que c'est à partir de 18 ans. Mais normalement, les gens sont un peu plus âgés. Donc oui, c'est entre 22-24 ans.
Vous faites vos études universitaires, classiques, et après, vous intégrez l'école militaire où vous avez la formation militaire. Et comment est-ce qu'on intègre cette école? Il y a un concours, c'est avec dossier?
Il y a un concours, ça dure 3 jours, donc il y a des tests sportifs, psychologiques, oui, aussi, et des tests culture générale. Donc il y a un concours qui dure 3 jours avant d'être sélectionné.
Où est-ce qu'elle est située, au Royaume-Uni?
Sandhurst?
Oui.
Oui, c'est juste à l'extérieur de Londres. Ouais.
Et donc là, c'est la seule école pour former les officiers de l'armée anglaise ou est-ce qu'on a, enfin, de l'armée anglaise ou de l'armée du Royaume-Uni? Je suppose aussi qu'il n'y a pas que des Anglais dans cette école.
Oui.
Également des Écossais et des Gallois.
Oui, voilà.
Est-ce que c'est la seule école ou est-ce qu'il y a d'autres écoles?
Non, il y a une seule école pour la formation des officiers. Ouais.
Donc, vous faites votre formation en un an et ensuite, vous choisissez les régiments. En fonction, il y a de la classement, c'est ça qui est organisé?
C'est un peu compliqué, ce n'est pas du tout le même système qu'en France. Il y a des entretiens, il y a les notations aussi. Donc, en fait, c'est vraiment une discussion entre les régiments et les officiers aussi. Donc, c'est les officiers de choisir leurs options. Et après, les régiments peuvent voir les notations les entretiens aussi pour eux. Voir s'ils sont vraiment adaptés à une carrière dans un régiment de transmission ou d'infanterie, par exemple.
Donc, vous êtes dans la transmission.
Oui, voilà.
D'accord. Et donc, vous choisissez le régiment et ensuite, débutez votre carrière.
Oui, normalement, il y a, après l'école de Sandhurst, il y a une période de spécialisation pour chaque régiment. Et ça dure entre quelques semaines et 6 mois. Selon la spécialisation. Et après, on joint les régiments et normalement, on est chef de peloton au début.
D'accord. Et comment est-ce qu'on se retrouve ensuite officier de Royaume-Uni à l'école de guerre terre à Paris? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous y rendre? Quelles ont été les modalités de sélection pour venir ainsi à Paris et passer une année?
Maintenant, ça fait moi, je suis le troisième officier britannique de faire l'école de guerre terre. Et c'était une option. Et je parle déjà français, donc c'est utile pour moi d'avoir déjà fait mes études en français. Et aussi, j'étais officier d'échange à Ballard pendant un an. Donc, j'ai déjà travaillé avec les Français, donc j'ai déjà une relation avec la France. Et puis, pour moi, je voudrais revenir ici et continuer de travailler en France. Donc, j'ai postulé pour faire l'école de guerre terre.
Donc, vous suivez la même formation que les officiers français.
Oui.
Donc, on avait évoqué dans la première émission comment est organisée la formation. Donc, on ne va pas y revenir. Mais vous suivez cette formation. Et ensuite, à la fin de l'année... Donc, ça va dépendre après de vos affectations. Soit vous allez rester en France, soit vous allez revenir au Royaume-Uni ou être engagé ailleurs en fonction des possibilités ou même des choix que vous allez faire, c'est ça?
Oui. Pour la plupart des Français, ils vont continuer à faire leurs études avec l'école de guerre intermédiaire. Mais pour les Français, normalement, c'est l'équivalent de l'école de guerre intermédiaire. Mais c'est au niveau du lieutenant colonel. Donc, pour moi, il n'y a pas d'option de continuer à faire les deuxièmes années, malheureusement. Mais à l'avenir, oui, il y a l'option de revenir et reprendre un poste et continuer de travailler en France avec le réseau que j'ai créé et des amis aussi.
Alors, je retourne vers le commandant Céline. Vous êtes également dans les transmissions?
Oui, tout à fait. Je suis également dans les transmissions.
Quel est, pour vous, en tant qu'officier français, si vous voyez d'important dans cette présence d'officiers étrangers, européens ou non européens d'ailleurs? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apprend aussi dans votre métier de militaire et pour la suite de votre carrière?
Alors, tout d'abord, cela fait déjà bien longtemps dans mon parcours, hein, de manière générale, où je côtoie des alliés ou plutôt des partenaires, hein, puisque depuis Saint-Cyr, hein, il y a déjà des alliés qui sont intégrés lors de notre formation de 3 ans. Donc déjà, c'est quelque chose que je connais à force, hein, de pouvoir rencontrer différents alliés de différents pays. Hein. Ça peut être notamment une grande partie qui viennent d'Afrique, mais des Anglais, il y en a certains qui peuvent venir de Corée du Sud, de Thaïlande, d'Arabie Saoudite également. Et ça me permet justement, notamment pour l'école de guerre terre, de créer ce lien d'interopérabilité culturelle en tout cas et technique, puisque on confronte nos méthodes de travail, hein, notamment la méthode d'élaboration de décisions opérationnelles terrestres, qui permet d'apprendre pendant toute cette année-là comment on arrive à faire prendre une décision à nos chefs. Donc, et je peux confronter mes idées, notamment par exemple avec Johanna, si on se retrouve sur un exercice en commun, comprendre elle aussi la manière dont ils apprennent à prendre des décisions, puisqu'ils ont leur propre méthode, hein, elle pourra peut-être en parler tout à l'heure. Et donc, on peut confronter comme ça nos avis et travailler ensemble pour se comprendre,
créer aussi cette relation hein, qui est indispensable entre nous, de confiance tout simplement, et de parler un langage commun qui est indispensable notamment lorsqu'on se retrouve plus tard en coopération ou en coalition lors d'une opération comme ça peut arriver aujourd'hui.
Oui, vous soulignez les coalitions ou les interventions, les opérations extérieures françaises, ça se fait toujours dans un cadre interallié, même si la France peut être la présence principale, le pays principal, il y a toujours évidemment la présence d'alliés, que ce soit des alliés africains, que ce soit des alliés européens. Donc on peut supposer que déjà vous êtes côtoyé au cours de cette formation, facilitera les choses aussi lorsque vous serez en opération.
C'est ça, tout à fait. Alors personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de retrouver des camarades de promotion, notamment quand je suis partie en opération extérieure au Koweït ou sur l'opération Barkhane quand j'y suis allée. Mais je sais que certains de mes camarades ont pu en retrouver et c'est toujours utile, je trouve déjà, d'avoir créé ce lien hein, qui est précieux hein, pour moi, à mon sens, au préalable et qui permet notamment par les méthodes de travail, hein, je reviens là-dessus, mais c'est indispensable quand on part en opération d'être interopérable, de se faire confiance, de se comprendre. Et c'est justement le fait de se côtoyer pendant un an, parce que c'est quand même assez long hein, de se côtoyer pendant un an, d'apprendre ensemble et de pouvoir discuter parce que finalement on est toutes les deux des transmissions mais on ne voit pas forcément toujours la même chose, on n'a pas les mêmes outils de travail, on n'a pas le même matériel, donc ça permet de discuter et de pouvoir travailler ensemble, d'avoir des partenariats opérationnels vraiment concrets et qui fonctionnent.
Alors pour nos auditeurs qui ne sont pas très familiers de la chose militaire, la transmission, qu'est-ce que c'est exactement? C'est la communication, c'est les échanges entre les régiments?
Alors, ce n'est pas forcément entre les régiments, c'est la mise en œuvre de systèmes d'information et de communication, donc c'est-à-dire les ordinateurs, la téléphonie, tout ce qui tourne autour des systèmes pour pouvoir communiquer et qui donne la capacité donc aux chefs et à ceux qui sont sur le terrain de pouvoir communiquer ensemble pour prendre des décisions, agir sur le terrain de manière concrète et efficace.
Major Johanna, vous évoquiez donc quand votre arrivée en France, votre connaissance et découverte de l'armée française. Évidemment, chaque pays a ses traditions militaires, chaque pays a une histoire et le Royaume-Uni a une grande histoire, notamment avec des régiments très, très spécifiques. Qu'est-ce que vous voyez comme différence principale d'approche culturelle ou technique entre l'armée française et l'armée du Royaume-Uni?
C'est une bonne question. Je ne sais pas si je pense qu'il y a plus de
similarité
en fait, que différence. On a des processus qui sont très similaires en fait. Le méthode de planification, il y a beaucoup de similarités en termes de réfléchir et de considérer tous les aspects. Oui, c'est.
Vous voyez plus de choses en commun que de différences finalement.
Oui, finalement, oui. Ouais.
Et on peut supposer aussi, étant à l'école de Guerre-Terre, le commandant Céline évoquait la présence d'officiers alliés français d'Afrique, d'Asie. Pour vous aussi, c'est aussi une découverte de ces officiers, de ces pays également. Donc il y a à la fois une découverte de la France et puis une découverte aussi, une ouverture sur le monde à travers la présence de ces autres officiers étrangers.
Oui, on est 12 officiers alliés. Et oui, c'est très. En fait, c'est des discussions autour des sujets cette année qui est très intéressant de comparer les systèmes et de confronter comment on travaille ensemble. Et c'est ça qui est utile dans l'avenir. Parce que, comme Céline a dit, on ne va pas être déployé. Seul, donc oui, c'est très important qu'on comprenne la manière de réfléchir et la culture. C'est pas forcément juste une question de langue, c'est la culture et la manière de penser qui est très important. Et c'est pour ça que c'est très intéressant cette année de parler avec les autres pays, pas que des Français, parce que forcément on va travailler.
En vous écoutant toutes les deux, c'est remarqué que l'armée ou la manière de mener les opérations est de plus en plus technique. La technique joue un rôle de plus en plus important. Mais vous soulignez toutes les deux que le côté humain, culturel, demeure quelque chose d'important, même si on utilise des techniques peut-être de plus en plus similaires en informatique ou en télécommunication. la tonalité culturelle et la tonalité humaine reste un facteur important.
Oui, moi je considère même que c'est primordial. Je pense que dans tout métier, hein, c'est pas seulement l'armée, hein, d'ailleurs, à mon sens, le côté humain, la relation, le relationnel, que ce soit avec les subordonnés donc, ou les supérieurs, c'est peut-être la chose qui est au cœur de l'action, hein, donc c'est quelque chose qui prime pour que tout se passe bien, et c'est pour ça qu'on met en œuvre même des exercices, hein, ensemble, hein, des exercices tactiques. Là, par exemple, on part aux États-Unis dans quelques semaines pour voir aussi, pour expliquer notre méthode d'élaboration de la décision opérationnelle et aussi voir comment les Américains réfléchissent et mènent eux-mêmes leur propre réflexion dans ce domaine-là, et de confronter, de pouvoir se comprendre ensemble pour pouvoir travailler justement en coalition. C'est toujours la même chose, en fait, c'est être ensemble les meilleurs possibles. Donc, c'est indispensable pour nous de se connaître au préalable.
Quand on est en coalition, si chaque pays a sa méthode de décision, est-ce que ça peut fonctionner, que chacun ait une méthode de décision
Alors,
différente,
non.
ou est-ce qu'il faut qu'il y en ait une qui prime
Il y
et...
a une méthode autant qui existe, et donc là, tout le monde l'apprend, et c'est la même pour tous. Donc, c'est celle-ci qui est mise en œuvre quand les pays partent dans le cadre de l'OTAN. Donc, tout le monde, justement, comme on l'apprend tous, on parle le même langage, on se comprend tous, que ce soit en anglais, en français. Tout le monde comprend finalement le résultat obtenu, puisque la manière d'y arriver est la même.
Oui, il faut qu'il y ait une méthode commune pour que les choses puissent bien se
Tout à fait.
fonctionner, évidemment. Quels sont aujourd'hui, Major Joanna, les principaux théâtres d'opération de l'armée britannique, des opérations extérieures? Est-ce qu'il y a eu au cours des dernières années, des interventions qui ont été majeures pour vous, enfin pour vous en tant que pays, pas simplement celles que vous auriez pu faire, mais où l'armée britannique est intervenue de manière importante et où ça a été... pour le Royaume-Uni, opération importante.
Pour nous, après Irak et Afghanistan, il n'y avait plus des grands déploiements comme avant. Mais évidemment, nous avons soutenu les Français au Mali. Et après, on est plutôt sur on dit les short-term training teams, donc en fait, c'est les mentoring pour aller soutenir d'autres pays et dans la formation. Et dans leur déploiement, donc on met en valeur les forces locaux, et c'est nous et c'est les équipes plus petites qui sont envoyées pour soutenir les pays en Afrique, par exemple.
Est-ce que vous avez des coopérations avec les pays du Commonwealth en Afrique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande? Il y a des éléments en commun?
Oui, il y a des échanges avec les pays du Commonwealth aussi. Donc, un peu comme moi, il y a des officiers qui sont envoyés et qui font la formation, ou sinon qui prennent des postes et qui travaillent pour les Australiens, par exemple, et pour d'autres pays du Commonwealth. Et après, le gros effort pour nous, c'est aussi
On voit que donc l'école de guerre-terre, c'est un moment important de formation pour les officiers français. Est-ce que au Royaume-Uni, vous avez un peu l'équivalent de l'école de guerre aussi dans la formation, on a évoqué la formation initiale que vous avez reçue. Est-ce qu'il y a des moments de formation ensuite au cours de votre carrière, un peu comme le modèle de l'école de guerre?
Oui, un équivalent de l'école guerre qui s'appelle Land Command and Staff Course, qui dure 6 mois, et c'est après la promotion au commando. Pour l'instant, il n'y a pas de Français qui fait
Et Valentin, c'est quoi qui
Et
Valentin,
Valentin,
elle est binômée avec un
oui, je
Français.
suis binômée
D'accord.
avec un Français qui va faire l'équivalent de l'école de guerre interarmée, qui dure 1 an, et ça c'est au niveau lieutenant-colonel, donc c'est un peu plus tard, c'est les Advanced Command and Staff Course en Angleterre. Et il y a un Français qui fait l'équivalent de l'école de guerre.
Donc là, c'est à peu près à mi-carrière, c'est aussi en fait 35-40 ans à peu près comme l'école de guerre, c'est ça? Ouais. Et voilà.
Oui, pour les Français, oui. Et ceux qui sont anglais et qui vont faire qui fait les deuxièmes années, c'est un peu plus âgé. Mais oui.
Et donc après, ceux qui passent par cette formation deviennent officiers supérieurs, enfin vraiment sur le même modèle que l'école de guerre.
Oui. Normalement, il y a un parcours d'être chef de compagnie et puis chef de régiment. Donc, c'est le même parcours que les Français.
Vous avez évoqué les binômes. Ça, c'est aussi un aspect qui est important à l'école de guerre pilotaire, le fait que les officiers français ont, sont binômés, ont une sorte de sont référents ou attachés à un officier étranger que vous suivez pendant l'année et avec qui aussi vous établissez des liens d'amitié peut-être un peu plus importants puisque vous connaissez de manière plus approfondie.
Ouais, tous les officiers étrangers un binôme français.
Je pense que c'est important, surtout au début, quand ils arrivent. J'ai souvenir de notre stagiaire officier là, qui est américain et qui est arrivé, il avait un problème de visa. Donc ça permet d'avoir un premier lien quand même avec quelqu'un au sein de l'école de Guerre-Terre pour pouvoir éventuellement, alors c'est pas le seul qui s'intéresse au problème hein, quand c'est un problème de ce type. Mais ça permet de l'aider, de l'inclure, de faire des soirées aussi. Et c'est mieux d'avoir un point de contact au début quand on arrive quelque part que de se retrouver au milieu d'une troupe. On est quand même une centaine. Donc ça aide bien d'avoir un binôme et puis ça se fait assez naturellement.
Oui, puis quand on débarque à Paris, il faut se loger. Il y a tous les aspects de la vie quotidienne aussi qu'il faut arriver à connaître et à découvrir. Chaque ville a ses spécificités, donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut guider et aider. Il y a également les auditeurs civils aussi qui ont un binôme également avec les...
Avec les Français, oui, ouais. Tout à fait. Chaque auditeur civil aussi a un binôme français qui peut l'aider aussi. Là, c'est plus pour comprendre les méthodes aussi de l'armée et de terre généralement.
On a évoqué tout à l'heure la question des commandements, des chaînes de commandement et puis des différences culturelles qu'il pouvait y avoir entre les pays. Dans la formation que vous recevez, les cours, les conférences ou autres, comment est-ce que c'est abordé justement ces sujets? Comment est-ce qu'on s'apprend à ces chaînes de commandement et à découvrir aussi la manière dont fonctionnent les autres pays?
Alors, ce sont les stagiaires étrangers qui nous présentent. Hein. Chacun passe pour nous présenter justement son armée, comment ça fonctionne. D'abord même le pays hein, dans l'ensemble, hein, plutôt que son armée en premier.
Oui, parce qu'il y a des pays qui ne sont pas très connus, de toute façon.
Voilà, le pays, après l'armée, et qui rentrent dans le vif du sujet. Ils nous présentent même un peu leur spécialité aussi culinaire, hein, pour qu'on sache un petit peu qu'est-ce qu'ils aiment manger. Puis après, c'est au quotidien, tout simplement, hein, où on discute ensemble lors des exercices tactiques qu'on va faire également lorsqu'il y a des pauses, etc. On discute de la manière d'être au niveau culturel. Et puis, c'est les temps de partage. Finalement, c'est presque le plus important, hein, les temps de partage qu'on peut avoir au quotidien, même en dehors des cours. Hein.
Ouais.
Oui, donc puisque la formation débute en septembre et se finit vers le mois de mai.
Ouais, je dirais plutôt juillet.
Ah oui, d'accord. Ça fait une bonne année, effectivement, entière. Et vous évoquiez donc le fait que les officiers étrangers intervenaient et participent, expliquent le fonctionnement de leur pays. Donc ça veut dire aussi que là, il y a une intervention directe de ces officiers dans la formation. Vous prenez part à la formation en étant vous-même formateur des officiers présents.
Bah, je pense que ça fait partie du raison pour laquelle je suis ici. C'est pour donner une perspective britannique aussi, pour que les Français puissent comprendre pourquoi les Britanniques réagissent dans une certaine manière ou pourquoi on fait des choses différemment, par exemple, ou de la même manière. Ça fait partie de l'échange.
Non, puis ils sont vraiment intégrés comme chaque stagiaire français, chaque officier français. C'est-à-dire que quand on fait des exercices d'élaboration d'une décision, certains vont se retrouver chef d'état-major et vont devoir passer et s'exprimer à l'oral en français. Parfois, c'est même en anglais. Hein, c'est arrivé lors d'un dernier exercice qu'on fasse en anglais, justement. Ouais. Et donc, ils sont vraiment concrètement dans la même formation que nous. Ils assistent à tout comme nous, ils font tout.
Nous écrivons des articles aussi, comme les Français. On prend des sujets qui sont importants pour l'armée de terre et nous écrivons un article aussi, comme les Français.
Ils amènent aussi leur perspective sur ces sujets-là, hein, parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément toujours... Déjà, nous, les Français, on n'a pas tous la même manière de penser. Mais ça amène quelque chose d'autre, de pouvoir réfléchir justement sur des sujets d'intérêt de l'armée de terre et de pouvoir confronter nos idées, toujours avec cet objectif de viser un partenariat opérationnel par la suite efficace.
Et puis, vous l'évoquez en début d'émission, pour la suite de votre carrière, avoir aussi ces connaissances, ça pourra faciliter ou pouvoir aussi avoir des repères lors des opérations que vous mènerez, ou bien si vous avez des personnes à contacter, c'est évidemment des éléments importants.
Exactement. Des personnes à contacter, ça peut arriver très souvent. Un besoin, même un besoin d'information, même pas forcément partir en opération, hein, mais on a un besoin d'information avant de partir en opération, par exemple. On sait qu'on connaît quelqu'un parce qu'on a vécu vraiment un an ensemble. C'est quand même plus facile et c'est une aide sérieuse et un lien de confiance.
Major Johanna, pourquoi avoir choisi la France pour cette année de formation ? Enfin, vous dites que vous étiez d'abord, vous étiez parfaitement francophone, et ensuite, ça fait quelques années que vous êtes là déjà, mais pourquoi la France et pas un pays du Commonwealth ou un autre pays dans le monde ?
J'ai fait mes études en français, donc j'ai toujours eu un lien avec la France, et en plus je suis mariée avec un français, donc c'est pratique.
Oui. Très bien, et vous avez fait quelle étude civile, enfin hormis l'école militaire, quel était le type d'études que vous aviez fait ?
J'ai fait mes études en français et espagnol.
D'accord. Et vous, commandant Céline, quel est votre parcours de votre formation, enfin, avant d'arriver à l'école de guerre Serre ?
Alors, avant d'arriver à l'école de guerre Terre, bon, déjà, j'ai fait le choix d'aller en classe prépa militaire, hein, pour pouvoir intégrer l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Donc, je suis Saint-Cyrienne, hein, j'ai fait mes 3 années de formation à Saint-Cyr. Et j'ai choisi, donc, à l'issue de ces 3 années, l'arme des transmissions. Donc, un peu comme Johanna, il y a une année de spécialisation après donc, la formation initiale, donc d'un an, hein, nous concernant, pour me spécialiser justement dans les transmissions. Et après, j'ai fait mon premier temps de chef de section, donc en corps de troupe. D'abord à Besançon, à la 7e compagnie de commandement de transmission. Et puis après, je suis arrivée au 41e régiment de transmission dans le nord de la France, où j'ai fait donc mon temps de commandant d'unité. Et par la suite, une volonté de ma part était de retourner donc à Saint-Cyr. Donc, j'ai commandé dernièrement une des compagnies de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, donc des officiers stagiaires saint-cyriens.
Pour les transmissions, il y a des régiments qui sont spéciales transmissions, ou est-ce qu'il y a des transmissions un peu dans tous les régiments ?
Non, alors ce sont des régiments vraiment spécifiques qui ne font que des transmissions. Donc après, il y a aussi par où je suis passée, donc la compagnie de commandement et transmission, qui est, elle, rattachée à la brigade. Donc c'est un petit peu différent et la structure est plus petite.
D'accord, bien merci beaucoup à toutes les deux d'être venues au micro de Conflit pour nous présenter ces facettes de l'école de guerre Terre, cette importance des partages, des enseignements avec ces officiers étrangers qui viennent ainsi se former. Puis vous avez pu le voir, non seulement ils viennent se former, mais ils viennent aussi former, contribuer à la formation des officiers français. Donc c'est un échange qui est extrêmement utile et extrêmement fructueux. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous nous retrouvons très bientôt pour d'autres émissions.